Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. We kill the flame. You don't think I'm a bad person. All I think is that I love you. You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. But you pull on one little thread and I'm ready. My lord. C'est le nouveau film de Luca Guadagnino, Bones and All, avec Tyler Russell, Timothée Chalamet et Mike Rylance. Je crois que c'est Isabelle autour de cette table qui a préféré le film et qui a donc l'honneur de nous le pitcher.
Oui, exceptionnel. Donc on part avec une adolescente qui s'appelle Maren, qui va au lycée, qui vit dans un trailer park avec son père. Et puis au début du film, elle va à une pyjama party chez une copine à elle. Et donc on a un petit moment d'homo-érotisme très très bien amené où elle est sous la table basse avec sa copine pendant que les deux autres se font les ongles et elles discutent et elles se regardent très intensément c'est vraiment romantique et mignon et c'est vraiment adorable son amie lui montre son vernis à ongles et Maren lui prend la main avec sensualité et puis lui bouffe le doigt et ça commence, c'est parti, bonne soirée. Et donc, à la suite de ça, le père de Maren, il en a marre, parce que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, apparemment. Donc, il se barre, il lui laisse une cassette où il s'est enregistré. Alors, moi, je me suis un petit peu demandé... Je me suis dit que c'était quand même un investissement assez grand par rapport à une lettre, mais j'imagine que cinématographiquement, ça fait plus sens.
Mais elle a quel âge,
Yami ? 15 ans. 15... Ah, ouais, ah non, 18. 18. 18. 18. 18. 18. Je pense que Luca Guadagnino, il en a eu marre du discours sur Call Me By Your Name, parce que vraiment, il y a 4 ou 5 fois dans le film où elle dit à des personnages différents, j'ai 18 ans, vous inquiétez pas. et donc son père se barre, et puis elle, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, il lui donne son acte de naissance avant de partir, et sur son acte de naissance, elle voit le nom de sa mère dont elle n'a pas de souvenir, donc elle décide de partir dans la ville de naissance de sa mère, dans l'espoir de la retrouver. Sur la route, elle rencontre une galerie de personnages. Tout d'abord, elle rencontre Mark Rylance, qui est dans un autre film. Il est dans un autre film, Mark Rylance.
Ah, mais maintenant, j'ai un autre monde, hein, dans un autre...
Il a mangé un space cake avant le début du tournage, et ensuite, il est high sur toute la durée. Il est exceptionnel, il est incroyable. Vraiment,
c'est un niveau de cringe.
On ne l'a jamais vu comme ça et on ne le reverra probablement jamais comme ça.
J'espère pour santé mentale.
Donc elle le découvre et ça lui permet d'apprendre que, un, elle n'est pas seule à manger des gens. Et que, deux, elle peut les sentir. Elle peut sentir les autres cannibales.
C'est comme Highlander.
Elle peut les sniffer.
D'ailleurs, on ne sait pas si c'est...
Quand il y a les immortels, il entend un petit son dans son oreille.
Ah, d'accord. Bien, voilà. C'est pareil.
D'ailleurs, cannibalisme, vampirisme, c'est pas trop clair, mais c'est...
Bah, il mange.
Oui, oui.
Scrunch.
C'est très cher, hein.
Oui.
Avec les os et tout, hein.
Oui, c'est avec les os et tout. C'est assez explicite, assez vite, d'ailleurs. Donc elle le rencontre lui, ensuite elle se barre parce qu'il est quand même pas hyper net. Et puis elle rencontre, enfin, le voilà, il est là, il est beau. Il a une coupe mulet, encore une fois, c'est Timothée Chalamet, il est là. C'est l'homme de ma vie.
Ouais, Isabelle.
Et il est tout maigrichon et pâle et il mange aussi des humains. Et donc ils décident de partir ensemble parce que pour le coup il est quand même un peu plus bégé que Mark Rylance, donc je comprends qu'elle lui fasse beaucoup plus confiance très rapidement. Elle monte dans sa voiture, elle n'hésite pas et ils partent tous les deux ensemble et puis bien sûr ils tombent amoureux, voilà, bones and all. Bon, vous voulez dire un truc
avant que tu t'épanches sur ton amour pour le film? Je suis un petit peu plus réservée, je tiens quand même à dire que moi j'avais vu l'abondance du film et je me suis dit ah non. Un truc qui romanticise le fait d'être un tueur en série, voilà, on en a assez vu. La bande-annonce parle pas du tout de l'aspect fantastique qu'il peut y avoir dans le film. Donc, quand j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un postulat fantastique dans le film, il y a Isabelle et François qui font des messes basses, ça me perturbe énormément. Bref, quand
je disais qui romanticise les tueurs en série, Ryan Murphy.
Ouais, alors pour vraiment, pas... on peut vraiment pas du tout comparer.
Pour ne pas citer, notamment.
Pardon, mais là, vraiment...
Non, et effectivement, après avoir vu le film, non, il est pas question de ça. Le postulat de fantastique permet d'esquiver totalement ça, en fait. Néanmoins, je dois dire que quand le personnage de Timothée Chalamet est arrivé, et bien sûr est bien là pour qu'on crush sur lui, il y a quand même eu ce petit truc en moi qui s'est dit genre... En fait, je commence à en avoir un peu marre de ce truc de rendre des mecs toxiques, sexy.
Mais il est pas toxique
du tout. Il est pas du tout toxique.
Il est absolument pas toxique. Il mange juste des gens. Il est pas toxique. Pardon.
Voilà.
Au contraire, il est très bienveillant avec elle.
Et
il
communique de fou.
De...
Pardon, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord. Alors là, Lila.
À un moment, il dit, je préfère plutôt à point, donc il communique.
Non, mais c'est vrai qu'honnêtement, j'ai pas trouvé à aucun moment, surtout quand tu compares avec Mark Rylance que t'as vu avant.
Non, c'est sûr. Mais il y a quand même le côté un peu paumé, un peu mec à problème, etc.
Oui, mais bon, les mecs à problème aussi ont le droit d'être aimés, Lila. Hein. C'est quoi ça encore?
C'est un peu la...
C'est psychophobe.
Elle en a fait son métier, pourquoi tu dis ça?
Voilà. Du coup, je me suis dit...
Tu projettes ton histoire personnelle.
Ça me saoule.
C'est compréhensible.
J'en ai marre de ce type. J'ai déjà vu Fumer fait tousser où il y a déjà un rat... Bref. Je reviens en flétard sur ce film-là. Non. Mais du coup, ça m'a un petit peu bloqué à un moment donné dans le film où je me suis dit, bon, j'ai assez vu cette figure et elle m'agace un petit peu en ce moment. Voilà. Le petit de désapprobation d'Isabelle. Néanmoins, effectivement, j'ai trouvé ça... plutôt bien foutu, plutôt bien amené à leur relation, et notamment effectivement en comparaison avec le personnage de Mike Reynolds, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs,
Sully,
qui est, mais vraiment, en fait, c'est terrible parce que ce personnage a réussi à rendre un malaise, genre que je connais bien en tant que femme, tu vois, le gars qui est pas, alors en tout cas, à premier abord, pas méchant, tu vois, même très gentil, trop gentil, mais tu sens que dans son attitude, il y a le mec qui peut vriller à tout moment, qui a un truc profondément malaisant, et ça me rappelait un petit peu la scène. J'avais oublié d'en reparler quand on a fait la chronique sur le film, parce qu'il remontait un peu quand je l'ai vu, mais la scène dans The Sadness, au début, dans le métro, où la nana se fait draguer par le gars d'à côté, le vieux, et que le gars commence à s'énerver parce qu'elle le repousse. Mais en fait, j'ai un peu eu cette sensation-là, mais en 10 fois pire là, avec ce personnage. Ce truc du gars, tu sens... que il lui manque une case et que il y a un moment donné où ça potentiellement devenir très très dangereux. Et
ironiquement, le fait qu'il mange des gens, c'est le truc le moins creepy chez lui.
Exactement, exactement. Et c'est ça que j'ai trouvé genre vachement fou, parce qu'en fait, finalement, tout cet aspect-là, qui est un peu l'aspect choc du film, entre guillemets, passe au second plan. Et on est vraiment sur la relation entre les personnages qui est assez intéressante. Enfin, ça m'a pas bouleversé encore une fois, mais je trouvais que c'était plutôt bien foutu et que finalement on n'était pas trop dans la complaisance glauque où j'avais peur que le film se vautre, quoi.
Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec Isabelle aussi, mais j'ai trouvé ça très touchant. Et puis le côté cannibale, c'est un peu comme une métaphore de tout le passif qu'on a,
oui,
douloureux, qu'on peut avoir dans la vie, qui nous accompagne et qu'on doit un petit peu gérer. Au quotidien, parce que leur faculté, je sais même pas si on peut dire une faculté ou une malédiction, enfin un peu entre les deux, quoi. Et d'ailleurs, quelque chose qui est bien, c'est que c'est vraiment un besoin. Ça apporte pas de pouvoir surnaturel ou d'immortalité, c'est juste une faim qu'on ressent et il n'y a pas de, qui doivent assouvir, mais il n'y a pas d'éléments surnaturels plus que ça autour. Et en fait, je trouve que c'est une métaphore du passé douloureux que chacun amène avec soi, qui nous pèse, surtout notamment le personnage de Timothée Chalamet. On comprend, il y a des allusions, on comprend explicitement à la fin, mais on comprend que le rapport à sa famille, à son père, ça a amené quelque chose de... une déchirure, un acte assez douloureux de sa part, et on ressent tout ça qui pèse, et c'est le côté cannibale, c'est vraiment ça, en fait, c'est les douleurs, la culpabilité, tout ce qui est amené à nous accompagner dans notre passé, et qu'on doit surmonter dans notre quotidien, je l'ai ressenti vraiment comme ça, parce qu'il y a aussi la culpabilité de manger des gens, c'est-à-dire que c'est vraiment une fin, c'est pas un plaisir, voilà, c'est pas comme le vampirisme où on est entre les deux, où il y a une excitation. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on doit surmonter. J'ai aimé cet aspect-là.
Après, c'est vrai que le fil du cannibalisme dans les films en général et dans la fiction, même plus généralement, ça a été représentatif de beaucoup de choses, notamment beaucoup de la puberté, de l'adolescence, du passage à l'adulte, de la sensualité, tout ça. Et là, je trouve qu'il y a aussi un bon argument à faire sur l'addiction, surtout dans le cas de Timothée Chalamet, mais pas seulement, puisqu'en fait, on se rend bien compte que c'est un héritage. C'est même explicitement dit quand on rencontre la mère de Marraine, qui est jouée par Chloé Sevigny, toujours dans des rôles de femme qui va bien.
Voilà.
Et c'est toujours surprenant de la voir apparaître toujours plus unhinged que la fois d'avant. Et donc il y a cette chose qui consume, qui prend tout l'espace, cette faim dévorante qui peut jamais vraiment être assouvie et qui du coup s'est dit à plusieurs moments en fait empêche la connexion et l'amour et le fait d'avoir une vie normale, d'être une vraie personne. C'est un motif d'amant condamné, de vie qui est impossible. On sait bien comment est-ce que ça va se terminer dès le début et on ne peut pas s'empêcher quand même d'avoir un peu l'espoir que ça se termine autrement. Mais non. Et puis le personnage de Mark Rylance, en fait, pour tout ce qu'il est absolument glaçant et terrifiant, et il a aussi, en fait, c'est un personnage qui est extrêmement seul.
Oui, c'est ça.
Et c'est vraiment un personnage qui représente les ravages complets de la solitude, dans le sens où, en fait, il va rencontrer cette gamine et il va pas réussir à la lâcher, il va pas savoir comment faire, en fait, même pour être normal, parce que ça fait trop longtemps qu'il est seul et qu'il s'éloigne de tout le monde, parce que c'est trop compliqué de faire... De composer avec quelqu'un d'autre quand on a cette fin là. Moi ça m'a énormément touchée, vraiment.
Il y a un peu de ça, c'est le côté il a trouvé quelqu'un, il la lâche pas, parce que c'est un peu ça, parce qu'il est seul depuis trop longtemps.
Voilà, et c'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, il dit une phrase qui est assez horrible, qui dit je me suis laissé sécher à côté de toi, et c'est vraiment dégueu, mais on comprend que voilà, en fait il a ressenti une connexion qui est pas réciproque, mais il arrive pas à la lâcher parce que il a ressenti une connexion et que c'est la première fois peut-être qu'il la ressent de sa vie. Donc en fait on a vraiment des personnages qui sont, on en croise deux autres des mangeurs, dont un qui est en fait pas un mangeur.
Et c'est ça, je trouve son personnage très intéressant.
Son personnage est extrêmement intéressant.
La façon dont les autres réagissent effectivement à son personnage.
C'est quelqu'un qui est cannibale par choix et non par obligation. Et ça, c'est vraiment une scène qui je trouve, est la scène un peu pivot du film, où on comprend vraiment en fait la différence entre les deux personnages principaux et des personnages qui auraient plus été du côté de ce dont t'avais peur avant de voir le film. Très honnêtement, moi j'ai trouvé que c'était un film assez exceptionnel, même au niveau de la cinématographie, de la façon dont c'est construit.
Il y a un petit côté, le côté contemplatif, le côté road movie.
Voilà, c'est ça, il y a un côté un peu hangout movie en même temps, où on observe, comme tu dis, en fait, le cannibalisme en fait, est très relégué au second plan. C'est vraiment quelque chose qui est là, mais au final, qui ne fait pas partie, par exemple, des 20 dernières minutes du film, ou même des 30 dernières minutes du film, où il y a notamment un moment... assez suspendu, où on les voit exister et juste être heureux. Et on se doute qu'ils mangent sûrement à ce moment-là aussi, mais on ne le voit pas. Puisqu'en fait, c'est aussi une tentative pour eux de s'émanciper de cette chose qui existe en eux et à laquelle ils ne peuvent pas finalement échapper. Et donc pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant ce film. C'est vraiment, je me suis dit, c'est un film sur l'addiction. Après, c'est mon interprétation personnelle.
J'ai l'impression qu'ils prennent le côté un peu organique du cannibalisme pour exprimer quelque chose de plus psychanalytique.
Voilà, c'est ça. Donc après, je pense que tout le monde aussi va l'interpréter selon son histoire, les choses avec lesquelles il connecte aussi. Voilà. Moi, j'ai trouvé que les relations entre les personnages étaient sublime l'histoire d'amour au centre. On a vraiment alors moi j'ai pas du tout trouvé Timothée Chalamet toxique, mais voilà, c'est
ouais. Ah, son côté genre oui, il faut être une grande gueule parce que quand tu pèses 30 kilos tout mouillé, etc. Enfin,
en même temps, c'est vrai,
mais
là,
mais c'est pas appuyé, hein, je trouve que c'est
pas appuyé. Non,
je trouve que après ça se dilue, mais c'est vraiment quand j'ai vu son personnage au début, tu vois, qu'il va tout de suite chercher un fight avec l'autre gars
dans les 5 premières minutes.
Oui, mais c'est pour avoir une première apparition marquante. Ça revient absolument pas dans tout le reste du film.
Non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu apparaître ce personnage, je me suis dit, et puis oui, effectivement, après, une fois que
c'est plutôt, c'est un personnage qui fait profil
plus nuancé,
que le plus rare du temps dans le film, il fait profil
très tendre, en fait. C'est, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage tendre et gentil, en fait, et vraiment touchant dans la façon aussi dont il s'occupe, parce que moi j'ai trouvé que le personnage qui était plutôt hargneux et énervé, c'était le personnage de Marraine, donc joué par Taylor Russell, qui pour le coup est vraiment très épineux et très difficile à percer, très difficile à atteindre, très en colère de ce qui lui
arrive. Parce qu'elle
n'a
pas résolu son rapport à ce cannibalisme, à son passé, alors que lui, il a un passé douloureux, mais on a l'impression qu'il a un peu fait la paix avec ça.
Aussi parce que lui, il se souvient, alors qu'elle, elle a refoulé beaucoup. Ouais. Donc en fait, elle découvre ça, alors que lui, ça fait un moment qu'il vit avec. Et donc, le couple, en fait, moi, je trouve, c'est plutôt lui qui va la chercher et elle qui s'éloigne et qui s'éloigne. Qui aussi se retrouve face au personnage de Mark Rylance qui lui dit en substance, la seule chose que tu peux être, c'est toute seule. Et finalement, elle va essayer de passer outre cette menace-là. Mmh. Et ça va se terminer comme ça se termine, c'est-à-dire de manière tragique et attendue. Et la fin est très difficile à supporter.
D'ailleurs, pour rejoindre ce côté tendre que tu dis, ça se voit même dans une scène de meurtre où il y a à un moment donné, il rencontre un type dans une sorte de fête foraine. Et puis bon, il décide de le dragouiller un petit peu pour qu'il le mette à l'écart pour le tuer. Et puis finalement, au lieu de, il pourrait l'assassiner brutalement. Et il le mange et puis terminé. Puis finalement, ils ont une relation, une relation gay ensemble. Comme si c'était une manière de le faire partir en douceur. Parce que le personnage n'est pas montré comme quelqu'un de négatif ou quoi. C'est juste un personnage gay qu'il a croisé. Donc, on ressent quand même cette empathie.
Oui, et puis en fait, ils sont vraiment très perturbé d'apprendre qu'en fait ce mec-là, il a une famille,
oui,
alors qu'ils n'avaient pas prévu ça.
Parce qu'ils essaient de choisir, oui, en plus, il y a cette souci de choisir des personnes seules,
voilà,
qui n'ont pas de famille, que personne ne regrettera.
C'est vraiment un film que j'ai trouvé très très beau, moi, personnellement. Après, je pense qu'effectivement, il y a pas tout le monde peut-être va connecter avec. Moi, je sais que Guadagnino, c'est pas forcément quelqu'un dont j'ai adoré le cinéma par le passé. Je suis pas une immense friande de Call Me By Your Name. Mais là, il m'a cueilli, quoi.
Mais sur ce coup-là, je crois qu'il a perdu un côté. Alors, moi, j'avais bien aimé Call Me By Your Name, mais il a quand même épuré le côté un peu chichiteux, visuel qu'on pouvait lui reprocher. Là, moi, j'avais pas détesté non plus son remake de
Suspiria,
qui était intéressant. Mais là, je pense qu'il a épuré. Il s'est vraiment mis au service de l'histoire et des personnages. Il y a un côté un peu ça reste stylisé, mais au service du film, quoi, le côté contemplatif, travailler sur le décor, sur les extérieurs, faut que ça se fond bien avec l'atmosphère générale. On sent pas qu'il y a son égocentrisme qui vient vampiriser un peu, parce qu'on le ressent quand même. Il y a des fois où on sent qu'il se prend pas pour de la merde dans certains autres films, et là on sent qu'il a réussi à mettre ça au service du récit, quoi.
Et bien, merci beaucoup pour vos avis sur Bonsonol.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.